Bonsoir, merci d'être venu si tard pour discuter d'un sujet pourtant si intéressant, mais voilà. Donc avec nous pour parler de financement participatif et financement de la création aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup ces dernières années, qui a évolué déjà sur la partie jeux vidéo il y a des dizaines d'années de manière assez, assez brutale avec les modifications des modèles économiques, et maintenant ça évolue de plus en plus, et dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi dans le domaine de la littérature, du jeu de plateau, du jeu de rôle, etc. C'est pour ça que nous avons tous ces invités-là. Donc Samuel Tarapaki, que tout le monde connaît, et qui des éditions Sans Détour, qui a donc, entre autres pas mal utilisé effectivement le financement participatif dans le financement de ses projets. Nicolas et Rémi de Termite Factory. Bonsoir. Qui ont également poussé des projets sur les sites de financement participatif, à la fois en livre et en jeu. Et Thomas Bidot, qui travaille dans une agence qui fait de la relation presse pour les sites de jeux vidéo, entre autres.
Oui.
Voilà. Et qui a comme spécialité de s'intéresser de manière très poussée à tout ce qui est site de financement participatif, avec principalement une veille active sur Kickstarter.
On est bon ?
Thomas, peut-être que tu peux nous parler juste de quelques chiffres qui te semblent importants dans tout ça. On va pas être Kickstarter sur tous les chiffres, parce que c'est ce que tu as, mais. Déjà, est-ce que ça reflète un peu les autres sites ou quelles sont les différences entre les différents sites de financement? Et puis, si tu as des trucs à présenter en termes de chiffres, vas-y.
Bonsoir. Je m'appelle Thomas et j'aime le financement participatif.
Bonsoir.
Je sais plus à combien je suis à 250 projets sur Kickstarter.
Ah oui.
En tant que backer, hein, évidemment. oui, alors des chiffres. Donc, comme Florent disait, je suis un peu. On aime bien me citer parce que j'aime bien aller chercher des chiffres. Alors, j'ai pas montré des chiffres sur tout, j'ai montré des chiffres sur Kickstarter spécifiquement et sur le jeu, mais on peut parler d'autres catégories créatives. Alors, pourquoi j'observe Kickstarter? C'est que moi je travaille dans le jeu vidéo principalement, et dans le jeu vidéo, Kickstarter est le leader incontesté. La dernière fois que j'avais fait une recherche sur les parts de marché, c'était 90% du crowdfunding en termes de montant se faisait sur Kickstarter. C'est un petit peu moins maintenant parce qu'il y a un ou deux concurrents qui sont mis en place qui marchent bien. En étudiant Kickstarter, on se rend compte que les mécanismes du financement participatif sont vrais plus ou moins sur les différentes plateformes. Moi, je fais aussi, donc du coup, ayant beaucoup travaillé sur des projets avec des créateurs et ayant étudié beaucoup les best practices et les différents phénomènes, on se rend compte que la plateforme a une importance, mais pas aussi importante que ce qu'on peut penser par défaut, en fait. Et donc, du coup, les mécanismes se retrouvent d'une plateforme à une autre et les mentalités des backers sont un peu les mêmes, les process sont les mêmes. Donc du coup, tout ce qui se dit ici est sûrement relativement vrai. Il y a une autre catégorie qui est énorme sur Kickstarter, c'est le jeu de plateau, qui pour le coup, c'est encore le poids de Kickstarter est encore plus important dans le jeu de plateau que pour le jeu vidéo. Donc du coup, comme on sûrement un petit peu en parler. Et pour le jeu de rôle, c'est moins vrai en France parce que c'est Ulule et Black Book Edition qui vendent par ici. Parce que j'aime bien le jeu de rôle et du coup, là, je regarde de près. Alors, je vous montre les chiffres. On va aller très vite parce que j'ai pas parlé assez à mon Instagram, donc c'est un truc que j'ai récupéré à l'intérieur. Donc, juste pour donner une idée, 123 millions de dollars en 2016 ont financé des jeux. Ça, c'est jeu de plateau, jeu vidéo, puzzle, live action, donc tout ce qui est j'aime grand nature. Mais en vrai, je vais peut-être s'y trouver. En vrai, c'est beaucoup du jeu de plateau. Et même la deuxième catégorie là-dedans, le. Je suis désolé, hein. Le jeu vidéo qui est donc la deuxième catégorie, comme au final beaucoup plus petite qu'on ne souhaite pas penser. Ça, c'est live game, donc voilà, les grandes natures, on fait 600 000 dollars l'année dernière, donc c'est possible. Mais quand on fait des grandes natures, c'est génial de pouvoir des sous comme ça. Mobile, c'est cool. Carte à jouer. C'est une catégorie de Kickstarter.
Ça permet à tout le monde de se rendre compte à quel point Thomas aime les chiffres et le financement participatif.
Ouais, j'aime bien les chiffres.
Il aime tous les coordinateurs.
Tabletop Game. Donc voilà, donc, sur les 100, sur, c'était quoi, 160 millions, il y en a 100 millions qui sont dans le tabletop. J'avais regardé les chiffres à juin, fin juin 2017, c'était déjà à 90 millions. Donc ce chiffre va être battu cette année encore une fois pour le jeu de plateau. Et c'est aussi intéressant, c'est de regarder le nombre de projets financés par, par 1600 projets de jeux de plateau financés sur Kickstarter. Donc c'est énorme. Donc je discutais avec des gens de Kickstarter et d'estimer le poids du financement participatif sur l'industrie du jeu de plateau. Et c'est très difficile de savoir, mais c'est probablement quelque chose comme 5% à peu près, 4 ou 5% de l'industrie du jeu de plateau hors Monopoly, risque, on va dire jeu de société, parce que ça c'est très bon, hein, bien. Mais du coup, le fait que ce soit un aussi gros pourcentage, c'est déjà assez phénoménal. Et je voulais montrer le jeu vidéo par comparaison. Le jeu vidéo par contre, c'est le prochain, c'est pas... voilà, 19 millions. Alors, le jeu vidéo a cette particularité de faire beaucoup de yo-yo parce que il y a des jeux qui lèvent énormément d'argent en jeu vidéo, mais il n'y en a pas tous les ans. Et donc du coup, ça a un impact sur, sur ce qu'on perçoit. Alors que le jeu plateau plus. Voilà, c'était pour donner un peu une idée en termes de chiffres, mais je pense que ce qui est plus intéressant, finalement, c'est ce pourcentage, ce 5% sur le jeu plateau, sur le jeu de rôle. Papier, en Amérique du Nord, l'estimation c'est 15 ou 20%. Il y a beaucoup beaucoup de créations en Amérique du Nord en jeu de rôle qui passent par le crowdfunding, et voire même il y a toute une partie de cette industrie qui n'existerait pas en fait sans le crowdfunding. Voilà, ça pas comme petite intro,
comme introduction, c'est parfait. Du coup, on va passer la parole aux autres invités pour voir un peu quelle a été votre expérience du financement participatif. Pourquoi vous y êtes allé et ce que vous en avez retiré en dehors de du financement réussi du projet, mais en termes d'expérience en tant que telle, la raison pour laquelle vous l'avez fait et ce que ça a donné.
Ok, alors bonsoir, donc Rémi et Nicolas, de Tarbi Factory. Nous, on est une jeune société et du coup, on est jeune aussi dans le crowdfunding. La raison pour laquelle on s'est demandé si ce ne serait pas la bonne option, c'est que c'est pas évident de trouver. Les financements nécessaires pour démarrer un projet. Alors, on fait plutôt de l'édition, soit du livre, ou, alors pas forcément, pas de jeu de rôle d'ailleurs, du livre en l'occurrence, c'était un roman illustré de premier crowdfunding et du jeu de plateau, ou du jeu de cartes pour ceux qui sont à venir. On a une communauté au départ qui est liée à notre histoire personnelle, puisqu'on est auteur de bande dessinée depuis une dizaine d'années chacun, et on est trois associés dans la société. Et on se dit que le meilleur moyen de rassembler nos différents lecteurs, nos différentes communautés, pour en créer une peut-être encore un peu plus forte et un peu plus grosse, c'est, alors évidemment, on pense spontanément aux réseaux sociaux, et c'est surtout de leur proposer un projet commun auquel ils puissent adhérer sous une forme différente. C'est-à-dire ne pas forcément aller au magasin, mais avoir la capacité de communiquer directement avec nous. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de constituer une communauté avec laquelle on pourrait interagir directement et à qui on pourrait proposer des choses qui n'étaient pas proposables. Alors j'explique pourquoi, vous allez voir, c'est simple. Notre premier roman illustré, c'est un roman qui rentre dans la catégorie jeune adulte, donc à partir de, on va dire, 12 ans, 13 ans. Et on réalise très vite qu'on est sur un roman qui va faire un petit peu plus de 650 pages, illustré, en couleur, donc absolument pas éditable, en tout cas pas par un éditeur de roman classique qui fait du medult. Je pense qu'on doit tous regarder avec des yeux 650 pages en couleur, mais bien sûr.
Malgré l'autorité que vous pouvez avoir chacun,
c'est pas suffisant parce qu'en fait la part de risque sur un bouquin comme celui-là, qui était le démarrage d'un nouvel univers, est conséquent. Donc même si en l'occurrence Olivier Perru, qui est l'auteur du bouquin, a remporté de multiples prix et un auteur à ce moment-là très coté, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je veux dire, à ce moment-là, il a une vraie belle cote, on pourrait s'appuyer sur son nom, mais c'est pas suffisant. Et puis après, il y a aussi la volonté de développer un univers qui soit à nous. Alors, la raison est multiple, enfin, les raisons sont multiples. La première, c'est qu'on travaille nous sous une réflexion transférière, donc on se demande si on pourra pas faire un jeu avec la société, donc un jeu vidéo, on se demande si on pourra pas faire un jeu de rôle, peut-être pourquoi pas avec un jour, tout est possible. Et on sait aussi ce que ça donne. D'aller vendre un projet comme celui-là à un éditeur, ça veut dire en général vendre le projet, son âme qui va avec. Et puis, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous vendez un projet à un éditeur, vous lui vendez le projet sur les supports qui existent, qui existeront un jour sur Mars, sur peu importe les planètes et sur n'importe quelle galaxie. C'était pas du tout notre philosophie. On avait envie de construire quelque chose, et surtout on avait envie de se dire, si on se donne les moyens de développer des choses sur des médias différents, on a la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Et après chacun son métier, les éditeurs font le monde. Donc on a appris le métier d'éditeur, c'est pas compliqué, c'était bien plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais en même temps on a appris avec les gens, et on a remarqué aussi que le fait de pouvoir être en contact en direct, ça nous a permis, les gens sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus patients, beaucoup plus conciliants sur toutes les choses, et ils sont même parfois source d'idées. Et en l'occurrence ce crowdfunding pour lequel on a besoin de 10 000 euros, et pour lequel on a fini à 60 000 euros, plutôt donc un crowdfunding aussi. Alors je le dis parce que on était sans le vouloir en compétition, puisqu'en fait pendant quelques heures le dimanche soir, on est devenu le financement participatif sur Ulule le plus rapide, puisqu'on a atteint les 10 000 euros en 13 minutes. Et le lendemain matin, on s'est fait donc par eux, alors qu'ils avaient déjà encore précédent. Autant vous dire qu'on prépare la réponse, mais bon, c'est chaud quand même. Ça c'était le démarrage fort, c'était la communauté qui existe déjà. Ce qui était le plus compliqué et ce qui était aussi le plus intéressant, c'était d'aller chercher les gens qui ne nous connaissent pas. Et là, pour le coup, il y a les plateformes du crowdfunding, lui en particulier, on ne connaissait pas Kickstarter. C'est un outil génial en termes de communication, de promotion, de visualisation de nouveaux produits. Et d'ailleurs, ce bouquin aujourd'hui, il a une autre vie, puisqu'il est sorti. C'était une édition qui n'avait pas vocation à être à aller plus loin que de simplement envoyer aux gens qui avaient participé. Et puis finalement, il est acheté par un éditeur. Et on n'a pas changé de fusil d'épaule. Il y a un éditeur qui est venu nous voir en disant c'est bien ce que vous avez fait, ça nous intéresse. En l'occurrence, c'est l'édition Michel Lafon. Et on leur a dit, c'est génial, si ça vous plaît, on vous le vend, mais on vous vend que le rendu. Le reste, tout ce qui se passera sur Mars et dans d'autres galaxies, c'est pour nous. Et ça, on s'est très bien entendu, et aujourd'hui, le bouquin vient de sortir, il y a une semaine et demie, deux semaines, et c'est un beau bouquin, et je crois bien que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bouquin Young Adult sortir chez un éditeur, en couleur, illustré. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe que parce qu'à un moment donné, on a été capable de démontrer que c'était possible, et ça n'a pu se faire que parce qu'il y a un moment des gens. Ils se sont dit, on va sur une plateforme de crowdfunding parce qu'on veut voir des projets qui sont un petit peu hors du commun, alors que ce soit à travers les produits qui vont avec ou à travers la proposition d'elle-même. Et on va participer parce que je crois, en tout cas sincèrement, que je ne veux pas forcément voir imposer ce qu'on va vendre dans le magasin. C'est-à-dire, les éditeurs ont des visions très précises de ce qui peut se vendre ou pas se vendre. C'est pareil dans le dessin animé, hein. C'est un sujet qu'on maîtrise quand on parle avec un producteur ou une chaîne de télévision. Ils savent très bien ce que leur spectateur va avoir envie de voir, tant mieux, c'est parfait. Les plateformes de crowdfunding, tous les jours pour moi, c'est l'exemple que y a toute une partie de gens qui justement ont envie de vous suivre dans votre folie et qui n'ont pas forcément envie de lire ou de consommer quelque chose, de regarder quelque chose qui répond à des codes bien spécifiques. Et ça, c'est un petit génial. Je ne sais pas si je réponds à la question. Tu veux rajouter un truc,
après, voilà. On va laisser passer.
Bonsoir.
Donc c'est le champion en titre, lui. Hein.
Respect.
Ce soir encore.
C'est vrai.
Ah oui, d'ailleurs.
Oui, alors
7200, 7400, vraiment. Juste, puisqu'on en parle, en ce moment, se termine là, en ce moment, hein, dans les deux heures, un financement participatif autour de la web-série Aventure, qui va devenir Aventure le jeu, et ce qui porte les survues en ce moment, et finalement cette plateforme, et tout le réseau, maintenant on parlera du réseau, parce que sinon l'aspect de la communauté dont tu parlais, c'est vraiment le fait de pouvoir rencontrer une communauté, de proposer un jeu, et de faire rendre curieux, pour nous, autour du jeu de rôle, ces personnes-là. Aujourd'hui, on a la fierté de vous annoncer qu'on a été chercher 6 000, au moins 6 000 nouveaux joueurs, ceux qui ne jouaient pas, qui vont découvrir le jeu de rôle grâce à la website et l'aventure. Voilà, c'est pour nous, c'est vraiment énorme. Sauf que c'est la fin. Pour nous, c'est une étape, mais ça arrive évidemment après beaucoup d'autres événements qui ont cadencé ce qu'on a fait. À l'origine, on est éditeur par amour du jeu de rôle, de l'appel de Cthulhu en particulier. Et puis, on s'est rendu compte que, avant de lancer le financement participatif, avant de se lancer dans ça, alors on éditait des jeux qui étaient mis sur le marché de manière empirique. Simplement. On s'est dit, oui, il en faut 500, 1000, 2000, combien on fait? Et puis il y a du colis d'échelle à réaliser. Puis on se dit, ok, si on en a pris 5000, c'est moins cher à faire, mais on ne les vendra peut-être jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire? Et donc on était vraiment sur un domaine empirique, avec des fois des succès énormes. Si on avait réussi, on aurait été à la double. Et puis d'autres fois, si on avait réussi, on n'aurait pas fait du tout. Donc on était vraiment on est dans le flou complètement. Quand on est dépendant d'un réseau de distribution, le réseau pro des boutiques, avec les intermédiaires, les distributions, les magasins, etc., c'est extrêmement difficile. Donc on a vécu pendant très très longues années avec ça. Heureusement, c'est l'appel du tout, donc il y a une forte communauté, beaucoup de choses, les réseaux, énormément d'éléments. Et puis on s'est dit, bon, à un moment donné, l'analyse qu'on a faite des financements participatifs aux États-Unis sur les partenaires particuliers, puisque l'UL faisait des choses, mais à l'époque, l'UL ne portait pas le jeu de rôle, comme il le porte depuis, évidemment, quand on est intervenu, et Bacouk a pris une autre voie. On a observé ce que se faisait aux États-Unis autour de ça, mais finalement, un financement participatif pour n'importe quelle discipline d'ailleurs, c'est une étude de projet client en main. On sait finalement où on va, c'est une étude de marché. Les gens vont pouvoir indiquer très précisément combien ils en veulent et qu'est-ce qu'ils veulent dedans à travers les forums, à travers la construction. Alors, jusqu'à une certaine limite, évidemment, parce qu'on est contraint par beaucoup de choses. Donc, cette étude de marché, elle se fait naturellement avec les quantités imprimées. On peut savoir et on peut annoncer que si le score minimum atteint n'est pas résolu, on ne la fera pas, on fera autre chose. C'est ces milliers d'euros, 19 milliers d'euros de lancement qui annoncent tout de suite le marché. On met le marché entre les mains des pledgers. Voilà le projet. Si vous n'êtes pas à temps à en vouloir, on ne le fera pas, tout simplement. Ça c'est très transparent, c'est très simple. Et c'est pas risqué pour un éditeur. Alors évidemment, on sélectionne les projets. On fait attention à des projets qui vont pouvoir aller loin auprès d'une communauté. On a commencé par l'appel de Toulouse avec une V7. Et on s'est dit, mais alors également financièrement, dans la mesure où on va être à la fois l'éditeur et le distributeur, voilà, où il y a toutes les marges, effectivement, il y a des économies d'échelle à réaliser, plus on va pouvoir progresser dans un score financier, plus on va pouvoir partager, plus on va pouvoir mettre de choses dans cette boîte. Ça, c'était énorme. C'est la découverte de ces paliers. Plus il y a de paliers qui tombent, plus financièrement on est capable d'en mettre dans la boîte. Donc la V7 a été une révélation. À ce niveau-là, on a fait effectivement un score extraordinaire pour un jeu de rôle. On était même nous très surpris, on n'attendait pas du tout ça. Je ne vous cache pas que les derniers mois, il a fallu qu'on invente du palier. On a habité les gens à un rythme, je crois qu'on faisait pas plus de 10 000, 15 000. Et on peut pas. Voilà, on a redoublé d'imagination pour inventer. C'est la force du jeu de rôle. On n'a pas de mal à inventer des choses. On a des contenus et des archives extraordinaires sur l'appel de sur l'appel en particulier, qui nous permettent de dégainer du contenu, évidemment financièrement raisonnable, mais autant qu'il en faut pour tenir le plus longtemps possible. Sur un logique, sur un rang, c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est confus, rajouter des choses est un peu plus difficile. Donc c'est l'expérience. Maintenant, on s'est contraint aussi à ne pas systématiser le financement participatif pour ne pas tomber dans une cavalerie sans fin où il faudrait refaire un financement pour payer, enfin pour financer le premier. Ça n'a pas de sens. Donc on s'est limité récemment à un ou deux autour de l'appel de Toulouse par an, pas davantage. Et puis cette année, on a fait un appel de Toulouse. En début d'année, paranoïa, et puis bon, aventure. Mais aventure sort des radars, à la mesure où c'est vraiment un produit beaucoup plus grand public. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est la force du réseau, la force de l'UL derrière. C'est l'ouverture. La newsletter de l'UL, ça ouvre ces visions-là, ça ouvre du public à des millions de personnes. C'est colossal. Derrière, il y a également des sites qui relaient les informations de l'UL. Je ne sais pas si vous êtes sur. Je m'amuse à regarder Topito, de temps en temps, il y a des 10 projets dessus sur Topito. Et voilà, encore du maillage qui se fait sur les réseaux, sur des choses comme ça. Des sites financiers relaient les réussites, relaient les scores, relaient les choses, font découvrir Ulule. Ça, c'est le business d'Ulule. C'est pas qui le font, c'est Ulule qui leur proposait d'en parler. Ulule fait très très bien son boulot, je trouve, à ce niveau-là. Et vraiment, Ulule porte et aide tout le monde à porter ses projets. Donc voilà. Historiquement, c'est le fait de pouvoir enfin mesurer et avoir un baromètre sur ce qu'on peut faire. Et puis, depuis plusieurs années, c'est intégré à notre modèle économique. On s'est compté sur le financement participatif jusqu'à un certain point. On ne fait pas tout en financement participatif. Et puis, de tenter des expériences comme celle-ci, essayer de lancer un nouveau produit sur un nouveau marché, vers des nouveaux clients, avec la réussite. On ne sait pas ce qu'on fera demain avec ce nouveau public qu'on a touché. Est-ce qu'ils sauront revenir vers nous pour découvrir d'autres types de jeux, jouer, etc. Peut-être pas, ils sont très fortement liés à la communauté du bazar du grenier, de Maillard, du jour du grenier. Voilà. Mais on peut aujourd'hui leur parler. Et aujourd'hui, c'est ce que nous a permis de faire.
Juste pour compléter, tu parlais donc d'avoir à la fois du financement participatif et de faire des projets aussi sans. Ça donne quelle proportion de globalement entre les projets avec et enfin, financés de cette manière-là et les projets qui ne sont pas.
En nombre, on était il y a quelques années à deux projets par an sur 12 ou 14 suivants par an. Donc en nombre, c'est 20%. Après, financièrement, on doit être à quasi pas bêtise, on va avoir la moitié, à peu près de ce qu'on paye au travers d'animation, c'est ça ? Ouais, donc on dirait environ la moitié. Ça dépend des années, parce que comptablement, ça c'est de la gestion.
par rapport à ça, donc, et à vos expériences, Thomas, sur le vidéo, si je ne me trompe pas, mais sur les autres industries aussi, je suis tout, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de double disruption, enfin deux disruptions successives. La première sur la distribution, en tout cas, là je parle du jeu vidéo, la première sur la distribution avec l'arrivée des plateformes dématérialisées qui ont mis un très engouement à ce que des gens se passent plus ou moins d'éditeurs pour vendre et donc enlève un rayon de la chaîne, c'est une économie d'échelle tout à l'heure. Et une deuxième maintenant avec on se passe aussi d'éditeurs, ou en tout cas en partie, pour financer pas une espèce de.
Sur le jeu vidéo spécifiquement ou
non, dans l'ensemble. Et j'ai l'impression que ça se recoupe un peu, mais on a l'impression que là, et c'est une intéressant de voir, même les éditeurs ont cette problématique-là. D'attaquer ces changements de structure du marché en fait.
Il y a clairement une prise de vitesse dans la facilité à se distribuer, la dématérialisation, Internet. On ne pourrait pas faire du jeu vidéo distribué aussi facilement s'il y avait toujours la nécessité de passer par des distributeurs et d'aller dans les FNAC. En fait, maintenant, on peut se passer par les stores digitaux, fait qu'on démultiplie les offres, on peut faire des jeux aussi qui sont de différentes tailles, il n'y a pas de coûts de production des CD avec des coûts minimums à récupérer, etc. etc. Et donc le financement participatif arrive, pareil, la digitalisation fait que maintenant on peut avoir une plateforme où on promet de l'argent, le paiement est différé, donc l'objectif est atteint et ça contribue à cette accélération. Et ça permet aussi de se couper au dos encore plus de ces acteurs, parce qu'on pouvait toujours distribuer, je passe en jeu de plateau depuis chez soi avant. Mais le fait de ne pas savoir si on allait avoir assez d'argent pour justifier la production, ça accélère ça. Moi, je me souviens, quand j'étais, il y a un peu plus longtemps, il y avait un jeu qui s'appelait Maléfice, et ils avaient fait une campagne qui s'appelait Les Voiles de Cali, et ils avaient fait un appel à souscription. Je crois que c'est la première fois où j'étais exposé au financement participatif, c'était il y a longtemps. Voilà, c'était 25 ans, mais c'est pas la peine de dire, c'est payé longtemps. et le financement participatif, c'est un truc qui existe depuis très très longtemps. Généralement, c'était dans le mécénat, etc. Mais là, maintenant qu'on peut faire ça à grande échelle, où c'est n'importe qui peut donner même 5 euros, on peut le comptabiliser. Ça accélère. Mais les différentes disciplines créatives, on va dire le jeu vidéo, le jeu de plateau, le jeu de rôle, le roman, le film, la musique, ont tous des modèles de fonctionnement qui sont quand même très 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 différents, qui du coup s'accélèrent différemment. Je pense que, par exemple, le jeu de plateau a des contraintes de production physique. Savoir comment, où imprimer son plateau, où faire fabriquer ses meeples, où faire les boîtes, c'est quelque chose qui était plus compliqué il y a 4 ans que maintenant, parce qu'il y a toute une filière qui s'organise. J'étais à Essen, donc le grand festival de jeux de plateau, la semaine dernière. Il y a maintenant des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, en fait, qui font la pub de. On gère tout pour votre campagne de crowdfunding, y compris la gestion communautaire, ces choses-là. Et donc, du coup, c'est d'autant plus rapide pour. L'accélération continue pour ces industries parce qu'elles avaient plus aussi de barrières et on lève de plus en plus de barrières. De la même façon que dans le jeu vidéo, le fait qu'on ait maintenant des moteurs pour faire des jeux qui soient. Gratuit, très accessible, avec de plus en plus de gens qui s'en servent, ça a été un autre facteur d'accélération. Mais le financement adaptatif, chacune de ces industries en fait, fonctionne différemment. Là, par exemple, pour le cinéma et la musique, On est en phase de décroissance, ça nous met en phase de perte de vitesse. Alors, je ne connais pas forcément les raisons de ce qui s'est passé. Le jeu vidéo stagne, on a eu un gros boom en 2012-2013, parce qu'on s'est rendu compte que vous pouvez enfin financer des jeux sans passer par les éditeurs, on s'est dit génial, puis il y a une fatigue, et maintenant on est stable à 300 projets par an. Mais pour le jeu plateau, on est encore dans une phase 2017 en forte accélération, d'explosion. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le milieu du jeu sur le papier, mais j'ai grandi avec ça et c'est une grande passion pour ça. Et il y a 15 ans, le jeu au papier, c'était très très difficile. Et là, j'ai l'impression qu'on a plein de nouveaux jeux qui sont créés, qui n'auraient jamais existé sinon, avec des univers originaux, grâce à ça. Donc, c'est un facteur de créativité qui accélère tout ce qui l'a touché. Dans ces différentes proportions. Je pense que plus on est dans la niche, plus le facteur d'explosion et de développement est important. Parce que personne d'autre ne veut servir cette niche. Si on veut faire de la musique, on peut trouver des majors. Si on veut faire du cinéma, on peut aller à Hollywood. Si on veut faire du jeu de papier, on peut aller voir sans détour. et voilà, ils ont déjà beaucoup de projets. Je pense que c'est surtout ça, ça permet d'insuffler de la vie dans des secteurs qui avant ne pouvaient pas exister parce qu'il n'y avait pas un endroit pour centraliser, cristalliser ces communautés. Ce qui a été dit, juste tout de suite à partir, la communauté c'est tellement important pour le crowdfunding. Moi je fais des ateliers pour le crowdfunding où j'explique aux gens, j'appelle ça des ateliers où je fais des destructions de rêves. Parce que si on a un projet génial qu'on met sur une plateforme de crowdfunding, ça ne sert à rien. Il faut un projet génial, avec des gens géniaux qui trouvent que c'est génial, qui sont prêts à en parler à leurs amis, qui sont prêts à soutenir dès le premier jour. La campagne de crowdfunding, elle commence 6 mois, 1 an avant qu'elle soit lancée, en trouvant des fans, en ayant une communauté. Donc, voilà, juste pour revenir, c'est aussi un facteur important dans ce phénomène.
Des réactions sur l'expérience, peut-être si vous voulez, vous voulez peut-être d'ailleurs des trucs.
Oh, je peux prendre la
et n'hésitez pas également aussi à parler maintenant de votre expérience, les choses que vous auriez peut-être fait autrement ou que vous envisagez de manière différente pour la suite par l'expérience empirique, et peut-être aussi que Thomas, je le sais, a beaucoup de bons conseils sur les trucs à faire et à ne pas faire dans le domaine.
Bonsoir. Je vais faire la première partie pour suivre Thomas par rapport à la communauté. C'est vrai que c'est le plus important et c'est préconisé notamment par Ulule, mais il y a un fameux schéma qui est des trois cercles. Le premier cercle qui est d'aller chercher le love money, c'est-à-dire l'argent quelque part, ou le financement, ou la participation des gens que vous connaissez de façon proche. Dites-vous bien que si vos propres familles ne sont pas prêtes à baquer sur les projets, ça va être compliqué de motiver les autres. Donc il faut déjà apprendre à aller chercher le premier cercle qui va être le love money. Le deuxième cercle, effectivement, ça va être les gens que vous pouvez connaître. Alors nous, on avait la chance, puisqu'on est effectivement auteur depuis 15-20 ans, d'avoir un deuxième cercle assez large, ma foi, puisqu'on a eu plusieurs dizaines de milliers de lecteurs en tant qu'auteur de BD. Donc bien évidemment c'est vers ces gens-là qu'on s'est tourné immédiatement pour parler du projet, effectivement bien en amont. Et c'est eux qu'on a proposé, à qui on a dit allez chiche le dimanche, je ne sais plus quelle date, à 20h30, on y va et puis on tente de détrôner sans détour qui était avec un record de 25 minutes pour leur financement. Parce qu'on est des rigolos, et c'est un truc rigolo. Mais on ne s'attendait pas effectivement à ce que les gens nous suivent. Et parce que notre communauté, on les connaît, on a fait des dizaines d'années de festivals de dédicaces, donc effectivement les gens les connaissent très bien. Et pour le coup, on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous suivent autant, et c'est vrai qu'on a vu le compteur défiler, et on a atteint effectivement ce fameux 10 premiers milliers d'euros en 13 minutes, et qui a duré à peu près 10 heures. Voilà. Et donc voilà, le deuxième cercle, effectivement, pour nous, on le connaissait déjà. Et par contre, le troisième cercle, c'est le cercle le plus difficile à aller chercher, parce que c'est des gens que vous ne connaissez absolument pas au début de la campagne. C'est-à-dire que ceux-là, il faut aller les chercher pendant les 25-30 jours que dure la campagne. Et pour ça, nous, on a essayé d'être créatifs. Et comme on est des raconteurs d'histoire, on a essayé de storyteller, de faire un récit pour aller chercher effectivement ces gens-là. Et comme on l'a fait, on a utilisé plusieurs formes, et notamment, on a créé. Rémi est auteur d'un d'un manga à succès, un manga français à succès qui s'appelle City Hall, et où il y a une très forte communauté. C'est un univers steampunk. Donc on a proposé à toute la communauté des fans de steampunk qui sont assez actifs et qui sont toujours prêts à montrer ce qu'ils savent faire, à participer. On leur a proposé un concours, puisque dans les paliers, les gifts, les cadeaux qu'ils pouvaient atteindre, on a créé une gazette des steamers, qui faisait partie bien évidemment du récit global du roman qu'avait créé Olivier, donc l'auteur de roman qui est notre troisième associé. Donc on a fait une sorte d'intégralité comme ça, et effectivement ce concours a très bien marché, puisque en fait la communauté steampunk s'est emballée là-dessus, et elle-même a commencé à communiquer sur ses propres réseaux. Et donc on s'est retrouvé à avoir une gazette où il y avait quatre concours dedans, un concours de photos de gens habillés en steampunk, un concours d'articles, un concours de nouveaux titres pour la gazette, puisque dans le roman, il y avait un ancien titre pour un journal des steamers. Et le quatrième concours, c'était un slogan publicitaire. Voilà. Et donc on a reçu des dizaines et des dizaines de participations à ce concours, ce qui fait que finalement, effectivement, ça, la communauté, quelque part, s'auto-alimente. Et prend fait et cause pour le projet. Et bien évidemment, ça c'est des choses que vous ne gérez pas, mais c'est des choses qui sont hyper importantes à mettre en œuvre. Donc on a eu plusieurs opérations comme ça, entre guillemets, toujours au service du projet, parce que sinon ça se voit, ça se sent, et puis ça fait fake, et puis les gens disent voilà. Ils disent tu n'auras pas mon argent. Et surtout, nous, le but du jeu, c'était pas forcément d'aller chercher de l'argent, c'était de passionner des gens, comme disait Rémi, sur un roman qui était pratiquement en l'état, invendable auprès des éditeurs, parce que, il l'a précisé, mais c'est hyper important, il y a des dizaines d'illustrations couleurs d'un roman, et qu'en coût de production, un éditeur nous aurait dit non, c'est pas possible. Par contre, après avoir eu 1000 lecteurs, globalement 1000 lecteurs sur un pavé comme ça, qui étaient prêts, effectivement, le roman en forme de base, il était, je crois, à 39 euros, si je ne dis pas bêtise. 39 euros. Au final, effectivement, les éditeurs classiques, dont Michel Lafon, mais il n'y a pas eu que lui, sont venus vers nous en disant bah, nous, on est intéressés pour faire une version plus, on va dire, grand public, mais en regardant les illustrations couleurs, ils se sont dit si eux, tout seuls, avec leurs petites mains, ils arrivent à faire 1000 lecteurs, qu'est-ce que nous, on peut faire avec ça? Voilà. Sachant, comme disait Rémi, que Olivier Perru a un nom, une plume dans l'univers du fantastique. Voilà, moi, ce que je peux dire sur les histoires de communauté des trois cercles hyper importantes. Je peux passer la parole.
Effectivement, l'aspect communautaire est juste vital dans ce domaine-là. Il passe par la relation de confiance, par la réputation numérique qu'on se taille sur le net. Par exemple, c'est assez frais, en fait, les histoires de financement participatif. C'est très, très frais. Il est essentiel d'avoir sa communauté pour évidemment s'y rendre. Sans détour, nous avions cette communauté de rôlistes qui ne fréquentaient pas les financements participatifs. Il a fallu que nous convaincions de venir. Et on s'est appuyé sur quoi? Sur notre réputation. C'était notre image de marque, l'image de fabrique de Sans Détour, le sérieux, le SAV, la confiance qu'on avait réussi à nouer avec cette communauté, à qui on a dit venez sur une plateforme Ulule. Aujourd'hui, à l'époque, ne portait pas le jeu de rôle. Il y avait beaucoup de plateformes, il y en a toujours beaucoup d'ailleurs, les Major Project, Xbox Bank, il y avait énormément. Et le choix d'aller sur Ulule, qui n'avait pas forcément cette réputation-là, depuis ça a changé. Hein. Depuis, les jeux de rôle sont sur. D'ailleurs, les plateformes, sur le sens, se spécialisent un peu d'ailleurs, à ce niveau-là, tant mieux. Donc voilà, c'est cette irréputation et cette confiance qu'il a fallu broder. Vous êtes un éditeur historique, on a 10 ans, on aura 10 ans l'année prochaine, hein. Historique, c'est très très relatif dans le milieu du jeu de rôle, mais voilà, il a fallu la travailler, il a fallu rassurer les gens. Nous, aujourd'hui, notre e-réputation là, les produits, ils sortent, ils sont livrés, parfois avec un peu de retard, ils sont livrés. On s'interdit de cumuler les projets tant qu'on ne les a pas livrés, parce que la méfiance s'installe. Tout à l'heure, tu parlais du jeu vidéo, l'exemple qui vient est de doute, un petit peu de suspicion, c'est celui de Citizen. Voilà. Là, je t'ai juste.
C'est compliqué.
Qu'est-ce qui va se passer avec Smart Citizen aujourd'hui? De quelle manière un projet comme ça qui a levé plus de 100 millions de dollars peut continuer à vivre? Et il faut qu'on s'interdit, il faut qu'on s'empêche de tomber dans ce travers-là. On fait des projets, il ne faut pas qu'on perde les pédales, il faut que ce soit maîtrisé de bout en bout. C'est une vraie conduite de projet. Vous êtes un financement participatif. Le premier volet à maîtriser, c'est la relation avec la communauté. Pas question de s'aventurer sans sa communauté ou avec des casseroles accrochées. Pas question. Il faut que les gens soient rassurés, conscients. Donc, sans les tours, on a les reins aujourd'hui pour assurer en cas de difficulté. On n'a pas eu besoin de le faire. Demain, quelqu'un veut lancer un projet pour l'histoire, c'est qui ? Même avec une communauté qui l'a suivi sur un certain domaine physique aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de conduire son projet sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs ? Il faut faire cette démonstration-là et puis informer les gens que voilà, leur retour, leur participation concourt aussi à cette relation, à ces choses-là. On a besoin, sur les forums, c'est ce qui me permet de faire, de prendre la température, on interroge les gens, on lit tous les messages, on ne répond pas à tout, je suis sûr qu'on lit tous les messages qui sont postés sur les forums. Et on voit les tendances, on voit les gens qui sont là, on voit les trolls, hein. on suit tout. Ça nous donne vraiment quelle ambiance, qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Et en répondant à leurs attentes, toutes les fois, en corrigeant, en communiquant sur « vous souhaitez ça, mais on ne peut pas le faire voilà. », cette confiance s'installe, cette relation s'installe, et là, on peut commencer à bâtir des choses. C'est quelque chose qui, pour nous, a quelques années, on espère vivre dans le domaine, enfin, notre modèle économique très très longtemps avec ce modèle-là, parce qu'il est énorme, c'est très très beau, et c'est très très bien. En espérant que les banques ne piquent pas, je ne sais pas si on a des questions sur les banques, hein, qui s'intéressent à ça, on n'y vient pas.
Non, vas-y,
j'ai pris le micro, moi, t'as dit Star Citizen. Mais c'est très compliqué, Star Citizen. Et Star Citizen, l'année dernière, on avait plus d'argent tout seul que toute la plateforme Kickstarter pour le jeu vidéo. Donc, effectivement, c'est un projet qui n'est pas encore sorti. Il continue à faire de la levée de fonds. Et, voilà. Mais c'est tellement une aberration que c'est difficile de d'en parler, même de comprendre le phénomène. C'est un signe noir. Il y a des projets qui ont échoué hein. D'ailleurs aux États-Unis, comme Footaloo, ça a été un peu compliqué leur campagne de financement participatif. Et pareil, c'était une question il a été sauvé parce que des gens extérieurs ont dit c'est hors de question que la marque Chaosium et la marque Call of Duty soient associées à un problème. Et du coup, ils ont sauvegardé la marque, ils ont sauvegardé la réputation au final et tant mieux. Quoi. Ouais, c'est compliqué de construire la confiance avec les gens, ça prend du temps. Tu veux nous parler de best practice, donc je vais
ouais.
Demain pour parler de best practice.
Je voulais vous laisser un conseil. On a parlé de la communauté, ça je pense que vous avez intégré l'importance de la communauté. Et surtout depuis tout à l'heure, je réalise qu'on parle beaucoup de projets qui ont fonctionné. Ils fonctionnent pas tous. Il y en a beaucoup qui échouent. Alors échouer, ça ne veut pas dire échouer fondamentalement. Ça veut dire échouer en l'état, dans la manière dans laquelle ils sont présentés, à un instant T, et par rapport aux besoins que vous étiez fixés pour le réaliser. Alors, ça veut dire que ce projet ne remettra pas. C'est compliqué de faire remettre un projet qui a échoué. Il a une casserole. Donc c'est derrière. Ça ne veut pas dire que vous en avez eu. Ça veut dire que ce projet-là, en l'état, il n'a pas séduit le public tel que vous l'imaginiez, mais que vous prépariez. Depuis tout à l'heure, on vous dit qu'il y a plein de solutions de facilité. C'est de plus en plus simple de faire un crowdfunding. Il y a des boîtes qui vous accompagnent effectivement dans la fabrication de ce que vous voulez, qui peuvent vous donner des conseils de partout. Quand vous êtes sur Ulule, et je vous garantis que c'est un outil qui est génial, vous pouvez même participer totalement gratuitement à des forums dans lesquels ils vont vous former en vous donnant des conseils, des lives d'une heure auxquels vous participez, vous pouvez poser des questions. Et ils vous donnent toutes les best practices en vous expliquant ce qu'il faut faire en se basant sur leur expérience. C'est génial, c'est un outil super. Tout ça, ça reste que des choses qui ont réussi. Alors, pour réussir, déjà, on le disait tout à l'heure, il faut prévoir. Alors, ça paraît bizarre parce que nous, on n'avait pas prévu non plus. On s'est retrouvé avec Darryl très très vite à devoir imaginer des paliers qu'on n'avait pas du tout pensé. Alors, je sais que ça paraît un peu fou parce que parfois ça ne sert pas, mais il faut prévoir l'impossible. Il faut prévoir que vous allez faire un gros succès, mais il faut anticiper aussi que ça peut ne pas arriver. Donc, quand vous préparez un crowdfunding, ne vous dites pas, j'ai besoin de 10 000 euros, je vais faire des paliers jusqu'à 15 000 euros. Alors ça, c'est déjà une marque, une preuve que vous n'y croyez pas vraiment, parce que vous ne pouvez pas maîtriser votre score, et surtout, vous devez être prêt. Et pour être prêt, il ne faut pas être dans l'urgence. Ça peut arriver, ça arrivera toujours, et tant mieux, si je vous souhaite hein, d'avoir prévu un truc jusqu'à 100 000, et de vous dire à 100 000, ça continue de grimper, qu'est-ce qu'on fait maintenant, bon, tant mieux. Mais il faut vraiment que vous voyez loin. Et voir loin, ça veut dire prévoir. Et pour prévoir, ça veut dire maîtriser vos coûts. Maîtriser vos coûts, je vous explique. Si, au fur et à mesure que votre campagne avance, vous réalisez que, il y a de plus en plus d'argent qui rentre, du coup, je vais rajouter des choses dans la boîte. Génial. Les gens vont être super contents. Et vous savez quoi ? Plus vous rajoutez de choses dans la boîte, plus vous aurez de gens. Et plus vous aurez de gens, plus il faudra rajouter de choses dans la boîte. Pas vrai. C'est un vrai cercle vicieux-vertueux. Sauf parce que, en vérité, votre coup de départ, que vous maîtrisez certainement, vous savez combien il vous faut pour produire ce jeu de plateau, ce jeu vidéo, ce bouquin, bah, il est juste en train de grimper en flèche. Et là, d'un coup, votre marge, parce que c'est là aussi que ça fonctionne, et bah, elle fait comme ça. Et à un moment donné, et je vous jure que c'est vrai, on a discuté avec des... Alors c'était sur le jeu de rôle, mais c'était pas du tout avec son étant, c'était quelqu'un d'autre. On a discuté avec quelqu'un d'autre qui a fait une super belle campagne, mais vraiment une super belle campagne, avec un vrai beau score, en centaines de milliers d'euros, un peu plus. Et je lui ai dit, bah, c'est génial, super expérience, bravo, enfin, voilà, un truc inattendu. Il m'a dit, je ne me retrouve pas, je perds de l'argent. Je lui ai dit, comment c'est possible? Mais là, il y a les pièces qui coûtent tant, il y a le sachet qui coûte tant, il y a le machin qui coûte tant, et en fait, à l'arrivée, coût non maîtrisé. En gros, vous pouvez faire une demande à 15 000 euros, lever 200 000 et vous planter quand même. Je vous promets. Et si vous le prévoyez à l'avance, vous maîtrisez le coût. C'est juste vital. Je vous jure que c'est hyper important. Vous devez savoir combien coûtent les choses que vous mettez dans la boîte et vous devez anticiper à l'avance ce que vous avez envie de mettre dedans. Et vous devez être très très loin dans l'anticipation en vous disant ça je peux pas. Et il vaut mieux privilégier de l'amélioration du contenu, conseil, du contenu supplémentaire que des nouveaux produits. C'est facile, c'est très tentant de dire ah mais je vais rajouter des pièces, je vais rajouter un poster, je vais rajouter un sachet. Bullshit. Voilà. En vérité, il vaut mieux que ce soit plus beau, plus grand, mieux fait, plus de contenu. De toute façon, les gens qui vous suivent, ce qu'ils aiment, c'est ce que vous racontez. Ils s'en foutent en vérité du gobelet que vous allez leur offrir. À la limite, s'ils ont envie de l'avoir, mettez-le dans un palier, vous le vendez. Et ce sera un bel objet collector, ils l'achèteront. Mais non, en fait, pas. C'est pas voilà. Si vraiment vous avez l'opportunité et que vous êtes hyper large, faites-vous plaisir. Si vraiment c'est sur les deux derniers jours de campagne, vous vous dites, allez, je vais faire un truc un peu fou, mais maîtrisez vos coûts, sachez combien ça coûte. Et surtout, ne le faites pas en temps réel. Hein, parce que voilà, nous, on l'a fait, je vous dis, on l'a fait aussi sur une autre campagne, sur un jeu de société, alors on s'en est bien sorti. Hein, mais c'est vrai qu'il y a eu deux moments, deux jours sur la forme, où je disais, on fait tous les deux face à ça, je disais, qu'est-ce qu'on rajoute dedans? Je dis, pas, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a déjà mis du vernis sélectif, la boîte a déjà changé de taille, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est au stade où, pour aller chercher les derniers backers pour pouvoir vraiment passer des paliers, on est presque, c'est idiot, on est presque en train de se dire, est-ce que ça vaut pas le coup de dépenser de l'argent pour aller chercher des mecs? Ben non. Mais c'est naturel. Vous pouvez le faire, c'est pas idiot de le faire. Hein,
il y a des gens qui le font. Hein.
Oui,
en fait, c'est une drogue. C'est
mais en fait, je voilà, c'est ça. En fait, vous allez être complètement drogué par le compteur qui monte. Genre, c'est un truc de fou. Il y a la forme où vous dites, ouais, c'est pas grave, allez, vas-y, j'y vais, ouh, youpi, hey, j'ai commandé 500 000 sachets, comment 1 euro. Et, là, et par, je vous donne un exemple concret, hyper concret. Nous, on avait un gobelet, une éco-cup. Elle était payante, on ne l'a pas offerte. Mais les gens dans un palier, un pêche auquel on pouvait l'avoir, un éco-cup collector, en série limitée. Et l'éco-cup, elle coûte à peu près 1,10€ à fabriquer. On la vendait quelque chose comme 3€, à peu près. Donc j'avais un coût sur la question qui était correct, c'était maîtrisé, c'était pas un cadeau, je vous jure. Ouais. Mais bon, moi, je la paye 1,10€. Et bien au moment, je vous jure que c'est vrai, au moment d'aller faire peser tous mes colis à la poste, enfin, bien après la campagne de crowdfunding, c'est fini, là, je suis en train de faire mes envois, j'ai que des colis à moins d'un kilo, donc 7,50€, super. Et là j'arrive avec mon colis et mon éco-cup. Et ils me font, bah, vous passez juste le kilo, c'est 8,50€. Et là je me dis, bah, c'est con. Bah, du coup je fais plus rien dessus quasiment. Quoi. Déjà, et je me suis mis presque, alors j'ai pas perdu d'argent, on n'a pas perdu d'argent, mais on s'est dit, c'est complètement idiot pour un truc qui pèse 20 grammes, juste on n'a pas pensé à un moment donné que ça pouvait changer le poids du colis et passer un colis d'après. Ce genre de truc-là, il faut y penser. Pensez à tout. Il faut aller à la poste avec votre colis, c'est stupide. Et il faut se dire combien ça coûte en frais de port. Parce que pareil, c'est un gros enjeu les frais de port. Hein. Sur une campagne de crowdfunding, quelle qu'elle soit, et encore plus Kickstarter, si en plus vous devez envoyer à l'étranger, sachez très à l'avance combien ça va vous coûter d'envoyer les choses et où et comment vous allez les distribuer derrière. Hein. Parce que ça, c'est la poste, elle. Elle ne fait pas de campagne de crowdfunding avec vous. Vous saignez, et puis alors vous pouvez aller voir, je vous jure, on a fait des envois par 1000 exemplaires. 1000 hein. Exemplaires ? Non, il n'y a rien dessus. Ah, mais quand même, c'est le livre. Oui, bah alors le livre, effectivement, il y a un tarif unique, genre à 6€ le colis, je crois, un truc vraiment pas cher. C'est cool, on allait me dire comme ça. Je dis, bah génial, je vais prendre ça, c'est que pour l'étranger. Pas cool. Et là, du coup, on a 900 lecteurs en France, et on se dit, bon, bah c'est cool. Ce genre de détails. Vous devez y penser avant, vous devez vous demander comment vous allez communiquer dessus, vous devez vous demander comment vous allez en parler avec vos acheteurs. Est-ce que vous participez au frais de port et dans ces cas-là, il faut que vous l'incluiez dans votre tarif? Est-ce que vous leur demandez de payer les frais de port? Est-ce que vous leur offrez les frais de port, mais en réalité, vous leur faites la prestation? Ce genre de questions, c'est aussi pareil. Vous devez savoir la maîtrise de l'agence. Parce que au moment où vous avez fait votre premier crowdfunding et c'est la fête et vous encaissez l'argent, moins le pourcentage de Kickstarter, et il faut en tenir compte aussi, c'est génial. Vous faites la moitié, vous dites, ouh, il me reste 10 000 euros. Ah ouais, vous avez la poste, ils font, allez, 1 500 euros. Et là, normalement, si vous avez bien fait les choses, vous avez pris du temps pour parler de votre communauté, pour la maintenir en éveil et en activité pendant votre campagne, c'est-à-dire que vous y avez passé du temps, et là vous vous dites, si je compte le temps que j'y ai passé, le nombre d'heures que j'y ai passé, le nombre de personnes qui sont passées dessus, ce que ça m'a demandé comme travail, en fait, je ne me retrouve pas du tout. En fait, vous devez tout maîtriser. C'est fou, mais vous devez savoir exactement où vont vos coûts et vous devez savoir à l'avance. Donc voilà, je fais juste un petit... J'ai désespéré par ça, parce qu'au contraire, allez-y, mais voilà, j'avais jamais... Ça a besoin de sortir, quand même, vous avez compris.
Mais pour justement là, tout ce qui a été évoqué depuis le début au niveau des chiffres, toutes les plateformes confondues et des succès qu'on fait, ça me fait penser à un jeu qui est tout récent, c'est le 7e continent. Et là, ouais, c'est exactement de ce dont vous parlez. Et il faut le dire, il faut l'annoncer. Enfin, il y a des choses qui marchent extrêmement bien. Donc après, je ne sais pas ce qui est en ton air. Est-ce qu'ils ont maîtrisé leur coût? Est-ce qu'ils vont s'y retrouver?
Ce sont des amis.
Nous, on peut vous en parler, ce sont des amis de Nicolas. Pour en discuter avec eux rapidement, je vais vous parler. C'est d'abord une campagne, c'est un jeu de société avec un jeu de cartes, avec beaucoup, beaucoup de cartes, plus de 1000 cartes. Quand ils sont lancés il y a 2 ans et demi ou 3 ans, ils font une première campagne à 1 million $. Succès, alors là, le fameux prévoyez l'impossible. Je crois que même eux, ils ont été surpris. Mais alors, ils ont mis tout ce qu'ils avaient de cœur dedans. C'est-à-dire que c'était sincère, et je pense que les gens l'ont compris. Et en même temps, c'était un jeu innovant. Enfin, un jeu de cartes, c'est pas innovant en soi, mais un jeu avec 1000 cartes. On propose de. C'est à la limite entre le jeu de rôle et le jeu de cartes. Il y a quelque chose de vraiment passionnant, et ça a passionné les gens.
Donc, ensuite,
le jeu de cartes,
ouais, c'est ça. Et là, ils viennent de refaire une deuxième campagne, sur une V2, avec des améliorations, etc. Et ils viennent de lever plus de 7 millions de dollars. D'accord, donc ils viennent de rentrer dans le top 10 des levées de fonds sur le jeu de société de Kickstarter. La raison pour laquelle ils le font aujourd'hui, en dehors de la qualité de leur travail, en dehors de effectivement, leur réputation et leur communauté qu'ils ont continué à faire vivre pendant 2 ans, alors qu'ils n'avaient pas de problème de crowdfunding, parce que la communauté elle continue à vivre même quand vous êtes fini. Et ça, c'est un gros boulot. C'est juste qu'ils ont fait des choix aussi, à mon avis, stratégiques. Et notamment, ce jeu, vous le trouverez nulle part ailleurs que sur Kickstarter. Vous ne le trouverez pas en magasin, vous ne le trouverez pas sur le site internet, vous ne le trouverez pas. Donc à un moment donné, si vous ratez la première campagne 2 ans plus tard, vous avez juste une opportunité exceptionnelle de ne pas rater la deuxième. Et bien, quand vous faites 7 millions de dollars, vous dites qu'il y avait un paquet de gens qui attendaient.
Oui, surtout qu'ils avaient peu de paliers sur leur deuxième sur l'extraction.
Ils avaient 2 ou 3 paliers, je crois.
Ben, 3 paliers, dont un palier racheté la première.
Oui, ah, ouais,
le palier acheté juste l'extension, le palier acheté juste la première, ou le palier acheté...
Ouais, c'est ça.
T'as mis combien, hein, quel papier?
Il a pris 4 paliers, il y en a 3, pour la revendre, parce que d'un coup,
il y a ça.
Mais c'est de la stratégie d'entreprise aussi, c'est-à-dire que derrière, là où ils ont été très intelligents, c'est qu'ils ont géré la qualité et la communauté, et ils se sont pas, c'est une décision stratégique qui du coup paye aujourd'hui, ils ont pris la décision de effectivement pas s'ennuyer, alors c'est un choix, quand je dis pas s'ennuyer, ça n'engage que moi, c'est pas leur mot à eux, avec un distributeur, un diffuseur, des gestions de magasins, de commerciaux, etc. Pourquoi pas, je pense qu'en l'état, dans leur cas spécifique à eux, c'était une excellente idée, oui, la preuve.
Oui,
et puis Cocorico, c'est des Français en plus, on peut le faire.
Je vais remettre une couche sur les coûts. Pas pour vous dire sur les
délais.
Hein. Vous ayez toutes les cartes en main. Vous payez à tous les étages, tout le temps. Quand vous préparez, on a des professionnels, on a des salariés qui préparent la campagne. Ce sont des personnes qui vont travailler en amont du jour où ça va se déclencher. Voilà, je vais avoir 2 ou 3 personnes qui vont travailler pendant plusieurs mois en amont, où je les paye. Donc je vais avoir un coût, une amende, un garant à la campagne, une personne qui vont avoir bossé, chacun 2-3 mois, voilà, peut-être déjà 8 ou 9 mois de salaire, pour que je sorte, parce que les gens vont préparer la campagne. Et 30 jours de campagne, pendant ce temps-là, il faut quelqu'un à temps plein. C'est l'animation du réseau, c'est tout ça. Plus tout ce qu'il faut fabriquer, tous les visuels, tout ce qu'on imagine, il faut les façonner, enfin, on est sur le jour, il faut les façonner. J'ai encore des gens que je paye à ce moment-là. Et puis si je suis complètement parti dans plein d'assemblages à faire, avec des jetons d'un côté, des bouquins, des cartes, des boîtes, et puis des sacoches, et puis vas-y, et puis des coupes, et puis des de tout. Et puis quand je reçois tout ça au dépôt, je paye des mecs pour assembler tout ça. Aujourd'hui, on en est arrivé à une solution, d'ailleurs c'est ce que propose aussi tout à l'heure, sur les Compass Games, des boîtes comme ça au Japon, il y a une boîte allemande qui a pris le marché là-dessus, qui propose du client en main. Genre, il faut qu'il sache faire tout, c'est-à-dire la boîte, mettre les bouquins dans la boîte, mettre les cartes, mettre les dés, mettre les pions, mettre les pushboards, tout glisser dans la boîte, fermer la boîte, l'empaqueter, mettre un prix dessus et me l'envoyer. C'est ça le job. Si je suis obligé, et là on a renoncé nous à un contrat avec une boîte américaine à qui on avait travaillé, on a arrêté, le modèle d'assemblage de leur Kickstarter, c'était 80 scénarios de montage au dépôt. Au dépôt, nous on n'a pas des joueurs, on a des coliseurs. J'imaginais pas une seconde le type arriver, le coliseur, qui ne connaît pas du tout la boîte, arriver avec sa fiche du matin et avec 80 scénarios de montage. C'est-à-dire lui qui prenait une boîte, qui mettait un peu mort de ça, trois figures, une de là, deux des de là, tout de fou. Il fallait en envoyer 5 ou 6. Ça se fait pas, un côté des colis, c'est 50 par jour, hein, quand vous êtes à ce moment-là. 6 000 colis, 50 par jour, il faut une armée de mecs. Il faut que je les paye, ces gars-là. Donc tout ça, il faut que je prenne, il faut que je tienne compte de tout ça. Pour fabriquer. Là, enfin, là, je suis professionnel, donc je tiens compte évidemment de ces éléments-là. Voilà, encore des coûts qui s'ajoutent, évidemment, j'ai surprise du poids. Sauf évidemment, à l'annoncer, il y a un palier, les intentions à partir de là, vous voulez payer plus cher de poids, hein, sauf que les gens, ils sont déjà pledgés. Vous n'allez pas leur redemander de pledger, de repasser à la caisse, alors que voilà, la carte, elle est débitée, il y a tout ça. Voilà. Prenez bien en compte tous les coûts. Et là, on vous parle de ce que souvent ce qu'on a vécu. Je vous assure que les coûts ont une imagination débordante. Il s'en rajoutera. De toute manière, il s'en rajoutera. Comptez large.
Vous avez encore envie d'en faire
ou... Ouais, on est là.
Ah, mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup.
On est arrivé au bout du temps, mais comme je pense qu'il y a personne derrière, on peut prendre quand même un tout petit peu de temps pour les questions et tout ça. D'ailleurs, Thomas, tu voulais faire
Ah non, mais c'est juste. Voilà, je suis venu parce que
j'ai. Point qui te semble très important.
Oui, mais non. Voilà, je veux pas ne pas dire. Je travaille avec beaucoup de gens sur qui font des projets de crowdfunding. Je suis beaucoup sur le crowdfunding. Et moi, j'ai un conseil que je donne tout le temps, qui n'est pas forcément le conseil que donnent d'autres professionnels dans le milieu, mais quand vous faites une campagne de crowdfunding, vous avez prévu des paliers. N'annoncez pas vos paliers. Ça les fait rire parce qu'ils savent, dans le fond, c'est des gens qui me connaissent. Alors moi, ça m'énerve beaucoup. Je recommande aux gens de faire 3 scénarios. Le premier scénario, c'est vous faites tout en 10 minutes et vous allez faire 10 000 fois ce que vous avez prévu et vous prévoir ultra loin et on va faire des paliers qui sont à 100 000 $, 150 000 $, on va aller à 10 millions et on a plein d'idées pour ça. Ça fait ultra plaisir à faire, c'est vachement motivant. Faire un deuxième scénario, où vous atteignez votre objectif au bout de 15 jours. On va dire qu'en fait, à mi-parcours, en fait, une campagne de 30 jours, à mi-parcours, vous atteignez votre objectif. Alors là, d'accord, donc si mon objectif c'était 10 000, et que je vais de 10 000 en 10 000, je ne vais pas motiver les gens à mi-parcours. Et motiver les gens à mi-parcours, c'est difficile. Donc il faut peut-être des petits paliers, 1 000, 2 000, et c'est des trucs un peu différents. Quoi. Donc du coup, on ne fait pas des gros trucs, on fait des petits trucs, mais il faut que ça soit quand même motivant. Quoi. Il y a un troisième scénario qui est aussi très très important, c'est. On note un objectif, mais juste les 10 dernières minutes. Et ça, c'est important parce que, oui, parfois, on fait des trucs où on explose plus le score, mais pas tout le monde. Et il faut aussi se poser la question de, est-ce que j'ai demandé 10 000, mais en fait, dans le crowdfunding, je vais forcément faire 100 000. Si c'est ça votre scénario, demandez 100 000.
Voilà. Ouais.
Voilà. C'était mon truc. N'annoncez pas vos paliers à l'avance. Sinon, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles il ne faut pas annoncer ces paliers. Voilà.
Juste, j'ai évoqué, je vais être rapide, mais puis après on pourrait poser des questions. J'ai évoqué rapidement, je n'ai pas l'horloge tournée, le placement des banques, le positionnement des banques. Je viens là-dessus parce qu'il s'est passé en début d'année, cette année, un événement important. Je parlais de la pause tout à l'heure, pour ça que ça m'est venu. J'ai le sentiment de manière générale que, excepté les Kickstarter, qui multi-positionnement aujourd'hui, enfin pendant longtemps aux États-Unis et maintenant en Europe, les placements se spécialisent. Il est arrivé un événement, et ça va se systématiser. En fait, les banques, depuis un bon moment, se rendent compte que ce mode de financement, qui n'était pas très lourd au départ, échappe à leur contrôle. Aujourd'hui, ce sont les banques hein, qui financent les projets, les artisans, ils financent les projets de majeurs, etc. Et des tas de choses. Ça échappe à leur contrôle. Cette année, la banque postale a acheté, est devenue partenaire majoritaire, a acheté carrément KissKissBankBank. À partir de l'année prochaine, les commerciaux de la Poste vont aller voir les artisans, les entreprises en France pour leur proposer de travailler avec la plateforme du Luxembourg de financement participatif. C'est très bien pour le financement, pour la publicité, ça peut représenter, pour regarder de la philosophie, ça représente, je trouve ça assez éthique d'ailleurs, en l'occurrence, que ce soit la Poste qui le fasse, parce que ça va donner confiance aux gens et que ça va les faire venir. Mais c'est quand même une banque. Et les banques sont en train de prendre le contrôle de ces plateformes-là. C'est-à-dire, derrière, Ulule, discuter avec le PDG de Ulule, hein, donc il veut qu'on légifère sur les financements participatifs, justement pour éviter leur disparition. Aujourd'hui, il y a les lois se croisent pas aux États-Unis, les lois ne sont pas les mêmes qu'en Europe, il n'y a pas de loi européenne sur les financements participatifs, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et ça échappe à ce contrôle-là. Les banques aimeraient prendre le contrôle, et il n'y a pas de loi pour les protéger. Aujourd'hui, les patrons de ces plateformes-là veulent que ça légifère pour que ce soit maîtrisé et que ce soit enfin bien implanté et que ça puisse se développer véritablement avec un cadre juridique pour éviter ces vampires de banque tant que ça.
Des questions à vous, Blanc ?
Une question. On a parlé donc des plateformes de financement participatif. Donc ça, c'est une étape quand on a notre projet, notre objectif qui est très suivi, préparé, et voilà. Mais avant ça, quand on est en train de continuer, quand on a besoin de travailler, quand on a envie de financer toute cette démarche-là, qu'est-ce qu'on a comme option ?
Banque, j'ai dit les banques.
Ah. Non, mais dans le même esprit que les financements participatifs, il y a Tipeee et Patreon, quoi. Mais c'est encore autre chose. Non, mais ça répond à la question. Ouais. Mais là, c'est pareil.
Là, c'est... Oui, donc si on n'a pas entendu vous, c'est il y a effectivement la solution... participative, on va dire, avant, en amont, c'est Tipeee pour la France, donc sur la base du TIP, c'est-à-dire le droit, en fait, et Patreon aux États-Unis, qui sont effectivement des plateformes qui permettent, quand on a créé une communauté, de dire, ben voilà, si vous souhaitez aider à financer un projet parce que vous croyez en ce projet-là, parce que vous croyez en moi, ma façon de raconter des histoires ou d'avoir envie de partager quelque chose. Vous pouvez donner par exemple 1 euro par mois, 2 euros par mois, 10 euros par mois pendant 1 mois, 2 mois, 10 mois, et on peut arrêter quand on veut. Donc effectivement, cette solution-là se développe de plus en plus, c'est vrai. Et c'est pas inintéressant parce que si on prend le cas de figure, on parlait du cinéma tout à l'heure, au cinéma ils ont les financements du CNC par exemple. Il y a plein de domaines où on n'a pas ça du tout. D'ailleurs, CNC ici, si on entend, on n'a pas du tout. Et
en jeu vidéo, on a un
petit peu. Oui, mais
on devrait essayer, mais pas beaucoup.
Et on nous a rayonné. Enfin, non, pas mal. Et donc voilà, effectivement, il y a les solutions Tipeee et Patreon pour essayer. Mais c'est toujours pareil, ça passe par la communauté. Vous convaincrez personne, vous convaincrez personne de vous donner, ou alors autant aller dans la rue, effectivement, faire de la guitare, c'est la même chose. Quoi. Vous aurez effectivement peut-être plus d'euros à faire de la guitare dehors que si vous allez sur Tipeee en disant, voilà, j'ai fait un Tipeee. Il faut raconter une histoire. Alors, on pourrait parler du storytelling, mais c'est un autre débat. Et c'est même qu'on va se faire une autre conférence, on va dire. Et effectivement, il faut amener du storytelling pour passionner les gens, amener du récit, amener de l'émotion pour intéresser les gens à ces projets. Et là, on a peut-être une chance, effectivement, de les embarquer avec nous. Voilà.
Et après, il y a le modèle traditionnel de la banque, comme on parlait tout à l'heure. C'est pas le plus simple du tout, parce que c'est compliqué de convaincre, c'est extrêmement compliqué. Après, il y a suffisamment d'éléments et de chiffres, si je ne vous en ai pas assez, Thomas, on a une quantité astronomique. De réussite aussi sur plateforme de crowdfunding, et si dans votre projet vous expliquez à une banque que vous avez besoin d'un financement, ça veut dire que vous allez rembourser, évidemment, je me souviens bien, c'est pas un don, avec des intérêts en général, mais que dans votre plan de financement vous intégrez un moment donné à crowdfunding et que vous pouvez vous baser sur des chiffres de réussite. Qui intéressent évidemment, qui sont intéressants et constructifs et que vous êtes capable de leur expliquer pourquoi vous avez analysé le crowdfunding et pourquoi vous pensez que vous saurez faire quelque chose d'assez similaire, vous êtes déjà dans une dynamique qui va leur parler. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais ça veut dire que vous parlez leur langage. Et c'est-à-dire que vous n'allez pas leur donner de l'argent en disant « j'ai un projet génial ». Je pense que certains banquiers vous écouteront en disant « moi aussi j'adore mes enfants et je vous coach de société ».
c'est bien, mais ça ne suffit pas à déclencher un prêt ou un coup de main. Là où en revanche, vous arrivez derrière en disant j'ai étudié la démarche de ceux qui ont fait comme moi avant, et j'ai vu le résultat, et je peux amener chiffres à appui, des preuves qu'il y a un vrai potentiel. Vous êtes déjà en train de leur parler un langage qui est
Le modèle d'emprunt, qui effectivement, c'est ben, d'abord, alors qu'il soit de votre poche ou d'une communauté, vous avez cet apport-là, allez flirter avec la BPI. La BPI vous donne un complément équivalent, grosso modo, à ce que vous avez apporté. Et une fois que vous avez 80% de la somme, et que vous avez 48 trucs, etc., les banques daignent apporter les 20% parce que tout le monde a fait le travail. Ouais. Il est pas tendre avec les banques.
Du coup, il y a clairement le besoin fondamental qui est à l'origine du projet, finalement, ça va être de constituer une communauté. C'est vraiment le point d'entrée qui va permettre de lancer le projet. Du coup, est-ce que vous avez des conseils pour monter une communauté? Donc déjà, on en a eu de Nicolas sur raconter une histoire pour intéresser, pour susciter l'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qui...
Tu veux commencer?
Non, vas-y, réponds à ça.
Je me permets de répondre en premier, effectivement. J'ai la chance d'animer un workshop sur le transmédia à l'école Lisa, justement exprès pour ça. Pour leur expliquer que de toute façon, tout passe par la transmission des émotions. Quand on fait du storytelling, c'est-à-dire quand on construit un récit, on doit effectivement transmettre, c'est-à-dire amener de l'empathie, c'est-à-dire que les gens doivent avoir de l'empathie envers vous et votre projet. Donc pour ça, il faut les passionner, bien évidemment. Quand vous avez un gamin de, je ne sais plus quel âge il avait, 15 ans, qui s'est mis à penser à une sorte de bateau qui devait ramasser les déchets plastiques au fin fond du Pacifique, là, il a raconté une histoire, les gens sont passionnés en se disant « Ah ben voilà, ce gamin, c'est l'avenir du monde, parce que c'est ci, c'est ça. » Ils ont embarqué, plein de gens ont filé beaucoup, beaucoup d'argent. Et effectivement, le rêve continue. Voilà. Si vous avez, effectivement, c'est toujours pareil, c'est-à-dire un projet où vous allez agréger une communauté à vous, parce que d'une part, déjà, vous y croyez, ça ne suffit pas, mais il faut qu'ils soient en résonance avec des aspirations. C'est-à-dire que si vous êtes seul à penser votre truc dans votre coin, ça ne va rien donner. Par contre, si vous créez une histoire, un storytelling, nous, pour le coup, vous pouvez aller sur notre site internet, on est des raconteurs d'histoire, donc bien évidemment, même notre nom de société, Thermi Factory, on a fait un storytelling dessus. Il y a une vraie histoire sur le nom de ça. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire ça, donc si quelqu'un qui est porteur de projet n'est pas capable de transmettre un récit et d'amener une passion sur quelque chose, et donc de transmettre une émotion, parce que c'est ça la communauté. Les gens, ils vont embarquer avec vous parce que justement, ils vont dire oui, moi, en fait, ils vont aller avec vous parce que, pas parce que vous leur vendez quelque chose, mais parce que c'est eux qui vont dedans, c'est eux qui font la démarche d'eux. C'est tout. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Il ne faut pas se dire, je vais transformer les choses, c'est les amener, eux, à penser qu'effectivement, ils sont acteurs de la chose.
Et en fait, je rejoins vraiment Nicolas, c'est hyper important d'appuyer là-dessus. Ça marche que vous vouliez nettoyer le Pacifique en envoyant des chèques dans l'océan, et ça marche aussi si vous venez avec nous, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste trouver des gens qui vibrent pour les mêmes choses que vous. Et normalement, vous n'êtes pas tout seul, a priori. Après, il y a un paquet d'outils comme les réseaux sociaux, ça paraît très basique, mais ça fonctionne très bien, qui sont vraiment de très bons outils pour commencer à faire vibrer quelque chose. Et puis si vous avez de l'écho derrière, vous dites « Ok ». Alors déjà, vous pouvez vous rallier une communauté qui existe déjà. L'exemple de Nicolas tout à l'heure de la communauté Steampunk, à un moment donné, c'est juste qu'on leur a présenté quelque chose qui répondait peut-être à une de leurs attentes ou un de leurs besoins à ce moment-là, parce qu'il y a toujours, sur des communautés qui existent déjà, des besoins de visibilité ou de leur montrer qu'on comprend ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, comment on l'a, etc. Et vous pouvez vous greffer, vous pouvez vous poser un problème, vous dire mais pourquoi personne chez vous a pensé à ça, et moi je vous propose ça, et si on le faisait ensemble? Vous n'êtes pas obligé, sincèrement, de vous dire je vais constituer une communauté de zéro. Vous pouvez aussi vous tourner vers des communautés qui existent déjà, mais il faut que vous soyez innovant. C'est-à-dire que si vous leur proposez quelque chose qu'ils ont déjà fait ou des idées qu'ils essaient déjà de mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Si vous arrivez avec un truc qui est vraiment innovant et qui leur permet de s'exprimer et qui vivent avec eux, là, ils vont vous suivre. C'est exactement comme ça que tout un projet se lance aussi. Donc ne vous dites pas, en rentrant ce soir, oh la vache, bon, j'ai un pote, on a la communauté, on est déjà deux.
C'est un super bon début.
Quand j'écris mon gars, j'ai écrit il y a quelques années, qui se passe dans un univers steampunk, moi à ce moment-là, je ne suis pas dans une idée de construction de communauté. Mon éditeur, oui, tant mieux. Et lui, quand il voit l'histoire, je dis bah, je suis allé voir les communautés steampunk. Et il leur dit il y a déjà des BD sur le steampunk, à cette époque-là, pas trop, du manga encore moins. Puis tiens, on va mettre ça en avant, puis le héros du truc, c'est Jules Verne. Et là, il se fait ouais.
Et c'est génial. Et après, on a vécu plein de trucs ensemble. On a fait plein d'animations ensemble, on a fait plein de salons ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a pas dit, pareil, la communauté, ça marche comme ça. Vous ne les sollicitez pas que pour les solliciter. Il faut que vous leur rendiez quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'il faut que vous participiez. C'est-à-dire que la communauté, ça ne doit pas être la vôtre. C'est une communauté dont vous faites partie. Et c'est comme ça que ça marche, à mon avis. C'est-à-dire que c'est un vrai respect des autres.
Oui, en effet, vous pouvez, c'est ça, c'est procéder par ricochet, proposer quelque chose, proposer une alliance, un partenariat, pour être, c'est ce qu'on a fait. On connaissait Maillard depuis longtemps, c'était un de nos auteurs. Il avait sa communauté, qui était également une partie de la communauté qui avait fait découvrir via le bazar du grenier, via Bob et Jean du grenier. Et puis, en cascade, nous, on a proposé cette édition, c'est pas notre communauté, quelque part, on s'est greffé dessus, et puis ça leur a plu, et puis voilà, donc c'est le partage de cette communauté. Trouver, c'est un partenariat, trouver le partenaire qui va mettre en résonance ce que vous pouvez parler, aller chercher les amis des amis, faites partager, il y a plein de process de concours, d'ailleurs, de partage en nombre de followers sur les Facebook, sur des choses comme ça, pour intégrer, c'est ce qu'on a fait, hein, clairement, il y a des réussites critiques en pagaille sur le retweet, sur des choses comme ça, pour aller, pour contaminer, c'est ça, les réseaux. Finalement, sur des milliers de followers, qui vont, enfin, de personnes qui vont retweeter, il y en a une poignée qui vont venir, parce que votre projet est parlant. Là, où il monte, dans le jeu de rôle du vidéo, c'est spécial. Les gens qui viennent à chaque fois qu'on parle d'un projet, le mec, il n'a pas réussi, c'est aux États-Unis, encore une fois, c'est un mec qui a fait une glacière avec une gueule. Le coup de la glacière avec une batterie dedans pour mettre la clé USB pour charger le portable. Enfin, le truc de fou. Il a fait une vidéo débile, mais qui exploite vraiment les codes du marketing. La vidéo est affreuse, mais regardez là, il a levé 5 millions de dollars avec sa glacière.
C'était son deuxième essai. La première vidéo était pire.
Voilà, il a fait quoi? Il a fait un produit grand public et il a laissé faire les choses. Tout le monde a partagé. Oh, c'est super, une glacière avec une clé USB dessus, c'est génial. On va mettre des clés USB sur les couvertures de tout.
mais ce qu'on se disait quand même, il faut que vous sachiez, peut-être tu peux en parler, mais il y a eu un avant et après la salade de pommes de terre. Ouais, si vous n'avez jamais entendu parler de
la
pomme
de terre, c'est que... Thomas va essayer de nous... Tu peux finir avec
la salade de pommes de terre. C'est un jeune homme qui dit, voilà, j'aimerais faire une salade de pommes de terre. Pour faire une salade de pommes de terre, il a besoin de 15 dollars. Donc il fait une campagne de crowdfunding pour 15 dollars pour faire sa salade de pommes de terre. Donc, il y a le palier. Pour 2 ou 3 dollars, il prend un petit morceau de pomme de terre, il l'envoie. Pour 10 dollars, il donne la recette avec laquelle il fait la pomme de terre. Donc, c'était une blague, quoi.
C'est une blague.
Et puis, y a des gens qui mettent, quoi. Ils mettent de l'argent, et puis il a 30 dollars, 40 dollars, 150 dollars, qui met des paliers. Et c'est fini à 40 000 dollars pour une salade de pomme de terre, avec une soirée où les gens sont invités, où on mange plein de salade de pomme de terre, avec des recettes pour différentes recettes de pomme de terre, avec un chef qui vient cuisiner salade de pomme de terre, etc. Mais le avant-après est significatif parce que il y a eu un raz-de-marée de projets de basse qualité. Moi, je les appelle des junk projects, c'est des projets où ils font 0 dollar. Et vous parliez des cercles, tout à l'heure, j'ai toujours ça en tête. Le pourcentage de projets sur Kickstarter qui font 0$ est incroyablement haut. On est, je crois, à 10 ou 15% des projets font 0. Pas d'amis, pas de famille. Les gens n'ont pas assez pour au moins avoir un backer.
Vous imaginez même pas lui-même. Quoi.
Oui, mais voilà, il n'a même pas créé un deuxième compte.
Vous imaginez que si vous êtes 0, c'est-à-dire que même votre mère ne croit pas en vous. C'est violent.
Et donc ça a un peu pollué Kickstarter à un moment donné là-dessus. Quoi. Et juste pour conclure sur cette chose-là, comment créer des communautés, etc. Le storytelling, j'ai rien à rajouter là-dessus, c'est parfait. C'est ce que je raconte d'habitude, donc c'est vraiment des super conseils. Tu veux des gens qui sont passionnés, pas des gens qui sont intéressés. Tu veux pas des likes, tu veux des love, si tu réfléchis en termes de Facebook. Et donc, juste, moi, mon conseil pragmatique par rapport à ça, c'est parler de votre projet avant de lancer le truc, parce que sinon, on ne lance pas. Et quand vous en parlez, ayez toujours mis en place des outils pour capitaliser sur le fait d'en vouloir parler. Newsletter, réseaux sociaux, avoir un site web. Quand la personne qui dit « Ah, mais c'est trop cool son projet !» qui sache quoi faire avec, qui sache « Je vais les suivre sur Twitter, je vais les suivre sur Facebook, je vais m'inscrire à un newsletter. »
Comment vous récupérez son adresse mail ?
Voilà. Comment capitaliser sur tout ce que vous faites et essayer à chaque moment toujours avoir en tête. Et c'est horrible, hein, parce que c'est du marketing. Mais ça fait partie du, ça fait partie de l'exercice. Et si vous faites une super histoire, votre projet il a l'air trop cool, mais vous n'avez pas de compte Twitter, vous ferez ça la semaine prochaine. C'est vous, c'est débile. Voilà.
C'est bien comme ça.
Merci à tous.